Bonjour à tous et à toutes sur l'antenne de FM+. Pour cette émission, les nouvelles du CEP et du protestantisme régional, c'est toujours avec Nicolas Boutier qui en est le rédacteur en chef. Bonjour Nicolas.
Bonjour Guylaine.
Merci d'être à nouveau parmi nous dans cette période de rentrée plutôt bousculée.
Enfin, oui, la rentrée est loin, on arrive déjà aux vacances de tout ça. La rentrée est loin.
C'est
même si
c'est vrai
qu'on parle du numéro d'octobre.
Mais... oui, c'est vrai.
Et c'est... Non, là, c'est... la remise en route est toujours très longue. Et puis, la montée vers Noël accélère les choses.
Je suis bien d'accord. Pour ce numéro d'octobre, Nicolas Boutier, le dossier porte sur les chrétiens en Égypte. Alors, pourquoi ce sujet ? Comme ça, d'après ma bord, on se dirait... Pourquoi est-ce qu'on parle de l'Égypte et de ses chrétiens ?
En fait, il y a un peu de tradition que le numéro d'octobre soit un numéro consacré au protestantisme ailleurs dans le monde. Donc, il y a déjà eu la Hongrie, il y a eu d'autres pays comme ça, et on a cherché, et on s'est dit pourquoi pas l'Égypte.
Et en effet, c'est un vrai sujet en lien avec le protestantisme.
Oui, à la fois avec le christianisme et le protestantisme en particulier. Comme ça, on ne s'y attend pas.
Pas du tout.
Parce que je pense que pour le commun des mortels, en fait, pour l'Égypte, la population est musulmane. Donc, on ne s'attend pas à trouver des chrétiens et encore moins des protestants.
Mmh. On pense aux Coptes.
On pense aux Coptes, voilà.
Oui. Vous avez d'ailleurs un article d'Héloïse
Decoeur
sur cette tradition copte. C'est le premier article. Et peu à peu, on s'aperçoit qu'il y a aussi une forte présence protestante.
Alors, à la fois, donc, il y a ces Coptes, hein, parce que ce qui est assez intéressant, ils sont, j'allais dire, les plus vieux Égyptiens, presque, puisqu'ils sont des premiers pas du christianisme. Ils s'installent en Égypte, ou ils se convertissent plutôt. On va dire que ce sont les Égyptiens qui se convertissent au christianisme. Et donc, il y a cette tradition très vieille. Et puis, au milieu du 19e siècle, des mouvements évangéliques viennent chercher ces chrétiens pour les convertir au protestantisme. Alors, ça reste une toute petite minorité sur la totalité de la population égyptienne, mais quand même qui fonctionne avec plusieurs protestantismes, ça on sait très bien faire, et tout ce que ça induit derrière.
Vous avez notamment une interview de Thomas Wilde, qui est ancien directeur de l'Action chrétienne en Orient, qui fait une première présentation des protestants en Égypte. Vous avez aussi un rappel de l'historique de cette action chrétienne en Orient par Mathieu Buch, qui est aujourd'hui l'actuel président de la Fédération protestante des églises protestantes d'Égypte.
Oui, alors c'est vrai que c'est assez amusant parce que on a tendance à connaître la Fédération protestante de France, qui réunit tous ces protestantismes, et c'est assez étonnant de trouver ce parallèle en Égypte sur une population protestante qui finalement est plus importante que la population protestante de France, mais qui réunit tous ces protestantismes et qui essaie de les faire avancer ensemble.
Alors, en effet, vous citez notamment deux églises protestantes francophones qui ont été actives et sont toujours présentes, l'église évangélique du Caire, EEC, et l'église protestante d'Alexandrie, ainsi que l'Evangelical Theological Seminary in Cairo, au Caire, donc ETSC. Donc voilà, il y a vraiment des lieux de réflexion théologique.
En fait, c'est ça, il y a à la fois les églises, et puis il y a, comme on a des facultés de théologie, il y a les mêmes choses là-bas. Donc des moyens de fournir à la fois des pasteurs, en fait, et une formation théologique à la hauteur de ce qu'attendent les églises. Et donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ce parallèle entre nos deux pays, et de voir tout ce développement assez important, finalement, de ce protestantisme, qui reste minoritaire, qui n'a pas de voix au chapitre dans le pays, mais
vous le dites bien d'ailleurs
mais qui est là, présent, et puis qui fait partie de ce grand groupe de chrétiens égyptiens.
Et puis il y a aussi une action, je veux parler du foyer d'accueil de jeunes filles chrétiennes, la maison Foller, qui est une action sociale au fond.
C'est ça, qui est là pour accueillir et éduquer les jeunes filles, je ne sais pas si on peut dire encore ça comme ça, c'était un peu le principe au départ. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des liens avec des jeunes Français qui vont régulièrement faire des stages là-bas, et donc découvrir aussi ce protestantisme égyptien.
Donc voilà, la surprise du dossier sur les chrétiens en Égypte. Alors tout de suite après, presse dossier, il y a aussi encore une autre surprise. C'est la rubrique Lieu de paix qui est ici signée par Pascal Le Gézène, qui est aumônière des hôpitaux de Romans et Tournon. Elle trouve un lieu de paix dans les toilettes, dit le titre, mais plus largement que les toilettes, dans ses tâches quotidiennes.
Mais c'est vrai que on aurait plutôt tendance à trouver dans ces lieux de paix, je ne sais pas moi, un ermitage perdu au fond d'une montagne, un beau paysage, une belle promenade. C'est ce qu'on a eu l'occasion de découvrir au fur et à mesure de ces lieux de paix. Et là, quelqu'un qui dit, en fait, mes lieux de paix, c'est les tâches du quotidien. C'est de faire le ménage, c'est d'éplucher les légumes pour préparer le repas. Alors, il y a peut-être quelque chose à voir. Je ne sais pas, c'est assez étonnant de trouver ça. Mais je pense que c'est aussi des moments où on se pose et on n'a pas besoin de vraiment réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Mais on peut peut-être s'évader et réfléchir à autre chose. Et c'est peut-être ça, peut-être en ça que le lieu de paix... Et là.
Oui, elle dit, ces lieux de paix, ces tâches quotidiennes considérées comme ingrates, participent aux travaux de nettoyage de mon être intérieur.
Voilà.
Donc après cet article de Pascal Gézène, qui est donc aumônière des hôpitaux de Romans et de Tournon, je vous propose de revenir aux pages nationales et d'actualité, Nicolas Boutier, les premières pages, et vous faites là un focus sur la fondation du protestantisme avec la contribution d'Alexis Guéry, qui est lui-même chargé de relations avec les fondations individualisées à la fondation du protestantisme. Alors, ça peut paraître un langage barbare, mais il y a quelque chose qui se joue là aujourd'hui à la fondation du protestantisme.
Alors, en fait, on a reçu, en tant qu'organe de presse, le bilan de la Fondation du protestantisme. Et on s'est dit, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en Église, et qu'il était intéressant de les mettre un petit peu en avant, de leur donner une voix au chapitre. Et donc, c'est vrai que la Fondation du protestantisme, c'est un peu compliqué à expliquer, mais recueille plein de petites fondations qui aident au quotidien les églises à vivre, à financer des projets. Et donc, ils ont un gros travail à faire, mais il y a une chose qui est en train de se passer avec le changement d'impôt et le prélèvement à la source. Ils sont en train de perdre énormément d'argent, parce qu'on perd une année fiscale, en fait, et donc, eux perdent une année de dons. Et donc, il y a une grosse remise en question et un gros travail qui est en train d'être fait en ce moment. Donc voilà, c'était aussi la manière de faire parler d'eux et de les soutenir. Et a priori, c'est le début d'une collaboration peut-être un peu plus longue avec la fondation.
Mmh. Et il est précisé aussi dans cet article que cette fondation qui a été créée il y a 18 ans, c'est la cinquième fondation de France, dites-vous, dans le CEP. Cette fondation intéresse aussi les particuliers qui ont des projets philanthropiques en lien avec le monde protestant. Voilà, on n'est pas tourné exclusivement vers des entreprises ou vers l'Église.
C'est ça. Je pense que même si on a un projet social, en fait, ça les intéresse, en fait. Si on veut restaurer un temple, c'est pas eux qu'il faut aller voir. C'est plutôt si on a un vrai projet constructif, qu'il faut les contacter.
Alors, la restauration du temple, vous en parlez dans les pages régionales, avec le temple de Galargue, qui fait un appel. Il leur manque peu d'argent, finalement, pour restaurer ce temple.
Il leur manque rien du tout. Alors, il leur manque 2000 euros.
Qu'est-ce que c'est pour un temple ?
Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais en fait, avec ces 2000 euros qui manquent, ils arrivent à une certaine somme. Je crois que c'est 7000 euros. S'ils arrivent aux 7000 euros, les monuments historiques doublent la somme. Ils auront 14 000 ou 15 000 euros pour la rénovation de ce temple, en plus de l'argent qu'ils ont eu du loto du patrimoine. Donc le temple de Galargue, c'est un bâtiment un peu particulier, parce que si j'ai bien compris toute l'histoire, il se situe dans l'ancien château du village, qui à la Révolution a été récupéré comme bien national, transformé une partie en temple, et je pense que l'autre partie c'est le presbytère. Et il y a des gros problèmes de structure et de charpente sur le bâtiment, donc il faut entièrement le rénover. Et le dernier culte a eu lieu il y a 15 jours, je pense. Et là, les travaux vont commencer en début d'année.
Donc c'est fermé jusqu'à...
On ne connaît pas encore la date d'ouverture.
Bien sûr.
Réouverture.
On sait qu'on commence ces travaux, on ne sait pas toujours quand est-ce qu'ils terminent.
Exactement. Puis je pense que En gros, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais il y aura peut-être des surprises qui vont apparaître.
Ouais.
On ne sait jamais.
Je vous propose aussi de rester dans la région Occitanie parce que vous nous parlez de la ville d'Albi, bon, qui doit dépasser le rayonnement du protestantisme régional CLR.
Ou bien, largement. Albi, oui.
C'est ça, largement, mais on est quand même en Occitanie.
On est quand même en Occitanie, mais dans la région protestante sud-ouest.
Voilà. Et là, vous nous rappelez que Albi accueille le Grand Kif en 2020 sur le thème « La terre en partage ».
Oui, alors le Grand Kif, c'est un rassemblement qui a lieu tous les 4 ans pour les jeunes de l'Église. Que je ne me trompe pas, c'est caté et post-caté, en gros jusqu'à 25 ans. Et cette année, il a lieu pour la première fois dans le sud, au sud de la Loire, parce que jusqu'à présent, il y avait eu Lyon, Strasbourg, Saint-Malo. Et là, il arrive dans le sud. Voilà, donc alors que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 3 ou 4 jours, tous les jeunes se retrouvent avec ce sujet qui va être le leitmotiv pendant ces 4 jours. Et différents temps dans la journée, des temps de prière, des temps d'échange, de travaux, de discussions et d'amusement aussi.
Et vous nous précisez aussi que c'est un apport sur lequel s'appuie le synode parfois pour alimenter leur discussion, leur recherche, leur réflexion
synodale. En fait, c'est toujours intéressant d'écouter ce que les jeunes ont à dire. D'ailleurs, en région PACA, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils ont un synode des jeunes. Et des réflexions du synode des jeunes, on tire des réflexions pour les synodes des adultes. Mais je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes et il faut les écouter en tout cas.
Vous écoutez le CEP sur le réseau FM Plus 91 FM à Montpellier, 103.1 à Nîmes. Une émission animée par Guylaine Dubois et Nicolas Boutier.
De retour dans les studios de FM+, avec Nicolas Boutier. Nicolas Boutier, rédacteur en chef du journal Le CEP. Le CEP, le journal régional protestant pour la région Cévennes-Languedoc-Roussillon. Et c'est le numéro 633. Et voilà, Nicolas, vous prenez la succession de rédacteur en chef depuis combien de temps, d'ailleurs ?
Depuis combien de temps ? J'y suis ? Ça va faire 3 ans.
3 ans, vous, et le journal existe depuis combien de temps ?
Mon Dieu, j'allais dire un demi-siècle.
C'est ça.
Et non, plus encore.
Parce on vous a précédé dans cette...
Ah oui, largement. Oui, il y a beaucoup de monde avant moi. Et j'espère qu'il y en aura d'autres après moi.
Non, en tout cas, vous êtes le premier que je reçois dans ce studio.
Ah, c'est un honneur.
Alors, pour les pages régionales, vous avez fait un reportage, Nicolas Boutier, sur la paroisse, enfin plutôt le secteur de la Margelle, le secteur de l'église protestante de Montpellier. Cette communauté qui est installée avenue de Biterrois à Montpellier, donc.
Oui. Alors en fait, la première fois que j'ai eu contact, en fait, on m'a invité pour la fête des voisins.
En juin.
En juin, c'est ça. Et j'étais assez impressionné quand je suis arrivé, à la fois par les couleurs, les nationalités présentes, les personnes, la musique, les enfants.
Est-ce qu'on le refait ?
Désolée, il faut que je l'enlève parce que sinon il va se remettre.
Oh, on va réinsister pour t'avoir.
Non, non, c'est mon réveil.
Ah, c'est ton réveil ?
Oui, je dois aller chez Hélène Walter après, c'était pour pas que j'oublie. Ok, je reprends.
Ok, alors attends donc. C'est pas grave.
Tu cherches pas la Margelle ?
Ouais, c'est
page 26. La question est bonne, j'avais commencé à parler quand ça a sonné. Je peux...
Oui, d'accord.
Je repars.
Tu reprends la question, voilà. Tu réponds.
Donc, la première fois que j'ai rencontré le secteur de la Margelle, c'est à l'occasion de la fête des voisins. Et j'ai été impressionné à la fois par les personnes présentes, les nationalités représentées, les couleurs. Enfin, c'était vraiment un moment... et malgré le ciel gris, c'était très festif. La musique, les nourritures, parce que tout le monde amène quelque chose. Enfin, vraiment, c'était un moment très sympa et je leur ai proposé de faire un reportage sur ce qui se vivait à la Margelle. Et alors j'étais assez impressionné par tout ce qui se passe dans les locaux parce que c'est un lieu de culte, c'est un secteur de Montpellier avec un pasteur qui habite sur place, mais il y a aussi nombre d'associations qui sont accueillies, qui ont leurs locaux là, qui viennent distribuer, aider. Vous avez une autre communauté coréenne qui utilise aussi les locaux, qui utilise la salle de culte quand elle est libre pour eux. Enfin voilà, il se passe plein de choses. Et ça m'a vraiment interpellé. Donc j'ai voulu faire ce reportage pour montrer ce qui se vivait et les échanges qu'il peut y avoir entre une communauté protestante qui a décidé de s'implanter là, dans un quartier populaire, on va dire défavorisé, parce que c'est quand même au milieu de barres d'immeubles, et les échanges que cette communauté peut avoir avec le monde qui les entoure. Et donc, j'ai pu rencontrer et la pasteur Solange Weisdeo et le président du secteur, Alain Chapelle, pour discuter de tout ce qui se vit là-bas. Et peut-être de leurs difficultés, parce qu'ils en font part, hein, de montrer que ce n'est pas toujours facile de communiquer avec ses voisins. Et puis de l'avenir qu'ils veulent aussi pour la Margelle. Alors, je me suis fait un peu épingler cet article. En particulier par un membre de mon comité de rédaction qui fait partie du secteur. Parce que j'ai assez peu parlé de la communauté. Qu'est-ce que la communauté vit? Pourquoi elle se retrouve? Et pourquoi elle va au culte là et pas ailleurs, à Montpellier? Donc voilà.
Est-ce que vous qui fréquentez énormément de lieux d'église, est-ce que pour vous, elle est radicalement différente, cette communauté, la Margelle?
Moi, j'ai trouvé, en fait. J'ai trouvé parce que... Alors, c'est peut-être le côté tradit des autres paroisses, enfin, sans être négatif, mais un joli presbytère, un temple dans un joli village, et puis voilà, la communauté se réunit là. Là, c'est un lieu qui a été créé, et je trouve qu'il y a aussi cette force-là de se dire, au milieu des années 70, on décide d'y aller, de s'installer, de construire un bâtiment, et d'y mettre une salle de culte et un logement de pasteur. Et de dire, ben, la paroisse de Montpellier est présente aussi parmi les plus faibles, aussi.
Les plus éloignés du protestantisme aussi, au fond. Comme c'est un lieu d'histoire.
Et les plus éloignés du... Alors, à la fois les plus éloignés du protestantisme, et puis il n'y a pas de communauté historique. C'est-à-dire que quand on se déplace dans une paroisse traditionnelle, ben, les gens sont là autour, ils ont toujours vécu avec leur paroisse. Tandis qu'à la Margelle, ce n'est pas un quartier où il y a des protestants. Il n'y en a jamais eu. C'est des gens qui se sont déplacés de la paroisse de Montpellier pour aller vers ce secteur. Et donc, c'est là aussi peut-être qu'il y a une dimension un peu particulière, parce que ce sont des gens qui sont investis dans la communauté, mais aussi dans la vie sociale du quartier, et pas historiquement. C'est pas là que leurs parents ont été baptisés, que leurs enfants ont été baptisés. Donc, il y a peut-être cette dimension-là qui n'y est pas, et qui n'y manque pas d'ailleurs. Hein. C'est autre chose que ce qui s'y vit.
Nous allons rester dans la région avec l'annonce d'une nouvelle prieure à la communauté de Pomerolles. La sœur Danielle y a été prieure pendant 26 ans et c'est la sœur Marthe-Elisabeth Blanc qui arrive. Alors, une page qui se tourne manifestement.
Oui, en fait, voilà, la communauté de Pomerolles qui est bien connue par les communautés protestantes, qui est de l'autre côté du Rhône par rapport à nous, mais qui est quand même dans la région Cévennes-Languedoc-Roussillon. Et il y a toujours des liens très très forts, hein, avec cette communauté. Les paroisses alentours vont souvent pour faire des retraites. Et donc, quand un événement se vit comme celui-là, un changement de prieur, ben, on est content d'en parler et d'en être parfois les témoins.
Deux nouvelles pasteurs. Vous continuez à lister, à nous présenter les nouveaux et nouvelles pasteurs qui arrivent dans la région. Et aujourd'hui, dans ce mois d'octobre plus précisément, il s'agit de Claire Desménard qui arrive à Nîmes et Violaine Monet qui arrive dans l'ensemble Sommierois-Vonnage. Deux jeunes femmes.
Deux jeunes femmes. Et oui, on continue. On a fait le mois précédent deux pasteurs déjà anciens dans leur ministère. Et là, ce sont de jeunes pasteurs proposantes, donc ils sont encore en formation. Alors, elles sont bien nommées en poste, mais c'est seulement dans 2 ans qu'elles seront vraiment pasteurs en titre. Et voilà, deux nouveaux visages, deux jeunes femmes qui viennent rajeunir un peu les cadres, ça fait du bien.
Est-ce que vous auriez d'autres compléments à apporter sur ce numéro d'octobre du CEP?
Je pense qu'on a déjà bien...
Déroulé
le numéro, il faut laisser un peu de surprise. J'invite de toute façon les auditeurs à se rendre le plus vite possible vers un temple pour peut-être trouver à l'entrée un numéro du CEP qui aurait été laissé et de se plonger dedans et pourquoi pas s'abonner.
Merci Nicolas Boutier et puis au mois prochain, nous serons en novembre.
Merci Guylaine, on sera en novembre pour parler, pour parler du numéro de novembre, logique.
Vous connaissez déjà le thème du dossier ?
Adopté et adoptant.
Ah, à bientôt.
À très bientôt.